Donc, bonsoir à tous et bienvenue donc, pour cette conférence qui sera animée par Cécile Clotour, qui on va dire, travaille pour la Fédération d'art urbain. Et je voulais juste dire quelques mots sur cette fédération parce que c'est donc qui a été créée en 2018 grâce à d'autres personnes qui sont ici présentes ce soir, dont Dominique Harris qui travaillait au ministère de la Culture et Jean Faucheur aussi, qui en est le président, et qui est une fédération qui est née en 2018, on va dire, d'un constat qui était assez simple, c'est-à-dire que du côté des artistes, des acteurs de la scène de l'art urbain, il y avait un besoin de plus en plus pressant de se confronter avec des institutions, différents genres d'institutions, on va dire, de la mairie jusqu'au ministère, on va dire. Et de l'autre côté, il y avait la difficulté de la part du ministère et des acteurs publics d'identifier la nébuleuse art urbain, c'est-à-dire des graffeurs vandales en allant jusqu'aux artistes professionnels, jusqu'aux associations, même aux entreprises qui œuvrent dans ce milieu-là. Et donc, l'idée de créer la fédération née de ce constat qu'il y avait un besoin, on va dire, de fédérer justement la scène de l'art urbain. Voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est six années de... Non, c'est plus... Non, c'est six, sept, voilà. Cinq, voilà. Et de vie. Et bon, je laisserai peut-être Cécile donner un détail, un peu plus de détails si tu veux rajouter. Mais aujourd'hui, pour moi, la fédération en France est incontournable, je dirais. C'est un cas presque unique aussi à l'échelle européenne et internationale. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, c'est un outil, je pourrais le dire, qui permet au fait... Que tu sois artiste, que tu sois propriétaire d'un bâtiment qui a un mur, que tu sois maire d'une ville, ou voilà, quel que soit ton profil, en fait, la fédération a avant tout déjà une structure qui est là pour répondre à tes questions, qui organise régulièrement des rencontres aussi pour permettre aux gens de s'informer, et puis aussi qui fait justement le pont avec les institutions pour organiser des rencontres, des expositions, des cycles de formation. Donc voilà. Et donc tout ça pour dire que dans le cadre, on va dire, des conférences qu'on organise régulièrement pendant l'exposition, il était évident pour nous qu'il fallait inviter la fédération à coordonner une table ronde, et on s'est dit que voilà, quand on parle d'art urbain et de patrimonialisation / institutionnalisation de l'art urbain, la fédération pouvait effectivement faire le lien avec deux professionnels comme Laure Pressac et Susana Gallego Cuesta, qui ont été parmi les plus actifs ces dernières années, avec des profils différents pour travailler autour du graffiti, du street art, de l'art urbain et le rapport avec les institutions. Donc merci beaucoup toutes les trois pour être là ce soir. Et voilà, je vous laisse la parole. Merci.
Merci Christian. Bienvenue à toutes et tous. Vous êtes très nombreuses et nombreux, donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre qui va durer environ une heure et demie. L'idée, c'est qu'on termine autour de 20h avec un temps de questions et réponses avec vous en fin de table ronde. Donc moi, je m'appelle en effet Cécile Clotour, je suis coordinatrice générale de la Fédération nationale de l'art urbain et j'ai un passé d'historienne de l'art, donc ça me fait toujours plaisir, un passé, un présent et peut-être un futur. Et donc ça me fait vraiment plaisir d'aborder ce soir avec Laure et Susana la question du patrimoine et de l'art urbain, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe énormément. Avant de commencer, je voulais quand même remercier évidemment l'équipe de la Réunion des musées nationaux, et notamment Elisabeth Grassi, Christian Modéo, vous toutes et tous, et puis du coup les deux intervenantes. Donc ce soir, on va échanger avec deux personnes. Donc Susana Gallego-Cuesta, qui est donc historienne de l'art aussi, conservatrice et directrice du Musée des Beaux-Arts de Nancy. Et on va pouvoir échanger par la suite sur les projets qui sont portés avec le musée. Et à sa droite, donc, nous avons Laure Pressac, qui est multicasquette. Je me souviens, quand on a préparé cette table ronde, ce n'était pas évident de se définir. Mais pour résumer, j'ai noté que tu avais à la fois un métier de conseil, que tu avais été commissaire général de la saison Sur les murs, histoire de graffiti, qui était dédiée au graffiti historique et qui avait été menée avec le Centre des monuments nationaux. Et donc voici l'ouvrage dont on va parler un petit peu après. Et tu es aussi chercheuse indépendante et tu as travaillé notamment à la Villa Albertine sur la question du graffiti. Pour commencer un petit peu cet échange, je vais prendre un peu de temps pour faire un cadrage général sur les notions qu'on va aborder ce soir, parce que ce n'est pas forcément évident pour toutes et tous, notamment sur la question de l'art urbain et sur la question du patrimoine. Et ça va nous permettre vraiment ensuite de pouvoir rentrer plus en détail dans les projets. Donc pour commencer, on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce que l'art urbain. Et j'ai mis à l'écran une tentative de définition qui ne fait pas valeur de vérité, mais qui permet d'ouvrir en fait des pistes possibles pour comprendre cet art dans l'espace public. Et cette définition, elle a été proposée avec le conseil d'administration de la Fédération de l'art urbain, dont il y a pas mal de membres qui sont ici présents ce soir, et qui a été proposée en janvier 2020. C'est une définition que je vais vous lire et qui a été très longue à écrire. On a mis une demi-journée pour l'écrire. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit peu le contexte sur la difficulté à comprendre de quoi on parle quand on parle d'art urbain. Donc généralement, nous, quand on parle de cet art, on dit qu'il est né en France et aussi dans d'autres pays au début des années 60 et qu'il regroupe des propositions artistiques qui sont protéiformes dans l'espace public. La notion de rue est vraiment inhérente et très importante quand on parle d'art urbain. Aux origines, il est illégal, subversif et éphémère. Il s'agit en général d'œuvres ou de productions plastiques qui prennent en compte le contexte de création de manière à le questionner, l'explorer, le marquer, le dégrader, le détourner ou le sublimer. Généralement, dans l'art urbain, on entend plusieurs mouvements et familles, comme le graffiti, comme le néomuralisme, donc ces grands murs que vous pouvez voir dans l'espace public, et comme le street art. Donc le street art, pour le définir, c'est pas non plus facile. Souvent, on dit que ce n'est ni le graffiti, ni le néomuralisme, c'est tout ce qui reste. Et donc, ça peut comprendre l'affichage, le pochoir, le sticker, le détournement, les performances, les installations, etc. Et l'art urbain continue aujourd'hui de se renouveler dans ses formes et dans ses contextes. Et puis pour celles et ceux qui sont allés à l'exposition de Christian Modéo sur l'enjeu numérique aussi de l'art urbain, on voit bien que les nouveaux outils permettent encore d'explorer différemment à la fois la rue et à la fois ses pratiques artistiques. Dans cette définition, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une définition qui concerne surtout la France et qui n'évoque pas toutes les formes d'art dans l'espace public. Qu'elle est sujet à débat, donc on n'en est pas complètement satisfait, mais à défaut de mieux, c'est celle qu'on utilise. Et que l'idée, c'est qu'elle prenne, c'est que l'art urbain, dans cette définition, il est vraiment vu sous son aspect contextuel. Il est réalisé généralement in situ, dans la rue. Il a une certaine fragilité aussi. Hein, l'aspect éphémère est très important quand on parle d'art urbain. Et il regroupe à la fois les pratiques légales, mais aussi les pratiques illégales. Ça, c'est très important de se dire que quand on parle d'art urbain, c'est pas uniquement ce qui est commandité, c'est aussi ce qui est fait de manière libre et sauvage. Et c'est ça vraiment ce qui fait l'ADN en fait, de ce mouvement. Et on peut parler vraiment de mouvement dans l'idée qu'on est sur des actes performatifs. On engage le corps, on engage le bras, on s'engage aussi en tant que personne, hein, parce qu'on prend parfois des risques. Et là aussi, je trouve que l'exposition Loading montre bien cette idée vraiment de mouvement et d'enjeu du geste. Ce soir, donc, on parle d'art urbain, mais on parle aussi de patrimoine. Donc, c'est la suite un petit peu de mon explication. Donc, finalement, voilà, on parle de street art, de muralisme, de graffiti. Et puis, qu'est-ce que c'est finalement que le patrimoine ? Donc, je vous ai mis quelques exemples à l'écran. J'ai tapé patrimoine dans un moteur de recherche assez simplement. Et donc, je suis tombée, par exemple, sur le Centre des Monuments Nationaux. Ça tombe bien, donc on va en parler dans quelques instants, qui propose un incubateur du patrimoine. Et aussi, je suis tombée sur l'UNESCO, que vous connaissez tous, et qui centralise sur son site internet une liste de patrimoine à la fois matériel et immatériel que vous pouvez retrouver avec des explications. Généralement, pour définir le patrimoine, on dit que ça regroupe ce qui est transmis à un groupe par les ancêtres ou par les générations précédentes. Finalement, c'est ce qui symbolise un peu notre héritage commun. C'est un ensemble de biens qui est hérité, qui est conservé et qui est donc transmis. Généralement, le patrimoine, il donne sens à notre histoire commune. Donc, il peut être à la fois matériel, donc, par exemple, ce sont des objets, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être une architecture, un site archéologique ou un patrimoine industriel, par exemple. Mais le patrimoine, il peut être aussi immatériel. Donc, c'est par exemple les traditions, les expressions vivantes, un rituel, une fête, une cuisine, un savoir-faire, des chants, des musiques, ça fait aussi partie de ce que l'on appelle patrimoine. Et puis enfin, on a aussi le patrimoine dit naturel. Désolée pour le bruit, hein, il doit y avoir des travaux à côté. Et donc ça, ce sont par exemple les sites sauvages, hein, des lieux remarquables, des déserts, des baies, etc. Donc l'idée qu'il faut bien avoir en tête quand on va discuter avec Laure et Susanna, c'est que le patrimoine, il est très divers et qu'il permet une cohésion sociale. Il raconte une histoire et il nous permet à toutes et tous qui sommes, par exemple, dans cette salle, d'avoir des valeurs communes, de savoir de quoi on parle et de savoir d'où viennent, en fait, tout cet héritage antérieur. En France, ce patrimoine, il est conservé et il est transmis par pas mal d'acteurs et d'actrices différentes, et notamment par les institutions. Donc, par exemple, les musées, le Centre des Monuments Nationaux ou le ministère de la Culture à travers les DRAC. Il peut être aussi porté par des associations de personnes amatrices, par exemple une association pour la sauvegarde d'une église, par exemple. Donc on peut voir que beaucoup de gens peuvent s'intéresser à cette question et le saisir pour le transmettre. Et donc finalement, la question, c'est est-ce que l'art urbain est un patrimoine ? Donc on a posé la question sous forme d'interrogation, un peu par provocation, parce qu'on sait que ce n'est pas un sujet forcément évident, notamment pour toutes les institutions culturelles, et on va en reparler dans quelques instants. Et pour démontrer un petit peu cet enjeu-là, j'ai voulu prendre un exemple concret, un peu une storytelling d'une artiste qui va peut-être vous parler. Et je vais vous montrer en fait comment on peut parler de patrimoine quand on parle de cette artiste. Cette artiste, c'est une artiste française, c'est une artiste qui a travaillé dans la rue, qui a souhaité très tôt s'exprimer dans l'espace public et qui est descendue dans les rues de Paris dès les années 80. Avec ses pochoirs, qui sont très simples, elle a choisi de peindre en fait sans autorisation, avec un style très reconnaissable. Donc souvent, on peut penser à des images de femmes, mais aussi de personnages, qui sont représentés avec des messages, parfois humoristiques, parfois plus militants. Et ces messages, ils sont écrits sous une typographie assez spécifique que l'on reconnaît au premier coup d'œil. Donc ces œuvres, elles ont marqué finalement à la fois la ville, donc par exemple on peut penser au quartier de la Butte aux Cailles dans le 13e arrondissement de Paris, ou à Belleville, et puis finalement ces œuvres, elles ont aussi marqué nos esprits. On peut avoir la mémoire de ces œuvres, de cet artiste, on s'en souvient, on l'a croisé au détour d'une rue. Ces œuvres et ces interventions, donc c'est des véritables traces qui sont physiques dans l'espace public, et elles côtoient d'autres traces, d'autres graffitis anonymes, d'autres affiches, d'autres graffitis picturaux. Mais il s'avère que le temps, il a passé. Et beaucoup de ces œuvres, maintenant, elles ont disparu, parce qu'elles ont été laissées aux aléas de la rue, donc il y a du vent, il y a de la pluie, il y a des politiques d'effacement parfois aussi. Et donc, finalement, quand on va maintenant dans les rues, on en voit moins qu'avant. Et puis, il s'avère aussi que cette artiste, elle est décédée. Elle est décédée en 2022. Et pourtant, c'est une artiste vraiment très importante pour la scène. C'est quelqu'un qui a marqué toute une génération de pochoiristes, une génération aussi d'artistes et d'habitants. Donc, peut-être que vous l'avez tous reconnue. C'est donc Mystique. Et donc, vous voyez, finalement, je ne l'ai pas citée tout de suite. Mais tout de suite, vous l'avez eu en tête, parce que vous vous en souvenez. C'est quelqu'un qui vous parle, et son style, il vous a marqué. On s'en souvient, mais finalement, comme je vous le dis, ces œuvres, elles peuvent disparaître. Nous, notre mémoire, elle peut aussi s'affaiblir, et puis finalement, on va quand même tous mourir. Ça, c'est une réalité. Donc qu'est-ce qu'on fait, finalement, de cette mémoire, si on ne l'entretient pas et si on ne la transmet pas ? C'est là où, du coup, on est sur un enjeu de patrimoine, c'est-à-dire on a une référence commune, on pense que c'est important, on veut la transmettre. Et comment on peut la transmettre ? Par plein de manières différentes. Par ses archives, par exemple. Ça raconte une histoire de cet artiste, donc ça peut être ses photos, ça peut être des captations vidéo, ça peut être des entretiens, ça peut être des ouvrages imprimés, des récits enregistrés. Et puis on peut aussi se souvenir de son travail et le transmettre par ses œuvres. Donc des mobiliers de rue qui peuvent être récupérés, ou des œuvres d'atelier, qui peuvent venir illustrer son style et faire écho à ce qu'elle a fait dans l'espace public. Et cette conservation, cette transmission, aujourd'hui, là, en 2024, elle doit se faire par des tierces personnes, donc par sa famille, mais aussi par les institutions. Et donc, je vous ai mis à l'écran, la carte de vœux en 2023 qui avait été éditée par le ministère de la Culture et qui avait choisi Mystique pour illustrer cette nouvelle année. Et donc pour nous, c'était un symbole très important de voir que l'institution, finalement, elle se rend bien compte que c'est une personne importante et elle diffuse son travail en souhaitant la bonne année à la suite de son décès. Donc on parle de patrimoine, et puis ici on peut finalement parler de matrimoine. Donc ça c'est un terme qui apparaît de plus en plus, que nous on peut revendiquer sans souci. On est sur une artiste femme, et je pense que c'est aussi très important de rappeler que l'art urbain est aussi porté par des artistes femmes. Donc voilà, à travers cet exemple assez notoire, on peut constater que l'art urbain, il peut faire partie donc d'un matrimoine, et que l'enjeu maintenant c'est de savoir comment on peut le protéger et comment on peut le transmettre. Donc les personnes qui peuvent l'exposer, le visibiliser, ça peut être des porteurs de projets, donc des festivals, des commissaires d'exposition, mais ça peut être aussi des actrices et des acteurs du patrimoine, qui ont aussi parfois des budgets plus conséquents et une force de frappe plus importante. C'est un enjeu dont certaines institutions se sont saisies, et nous, en tant que fédération, on est aussi là pour observer en fait, les acteurs et les actrices qui le font. Donc on a par exemple des musées qui travaillent maintenant sur l'art urbain. Je vais en citer quelques exemples juste pour vous donner un petit peu une idée. En France, on a par exemple le MUCEM, on a le Musée national d'art moderne du Centre Pompidou, qui vient d'acquérir des œuvres de Gérard Jouti-Camien et de Lek Essowat, qui sont des artistes très importants pour la scène urbaine. On a le Musée des Beaux-Arts de Nancy, et puis Susanna va nous donner des exemples plus concrets. On a le Musée des Beaux-Arts de Rennes, on a le Musée des Beaux-Arts de Calais, le Musée de la Chasse et de la Nature, le Musée du Louvre ou encore la piscine de Roubaix. Donc on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se saisissent de ces enjeux et qui proposent des expositions ou qui font des politiques d'acquisition d'œuvres issues de l'art urbain. Et puis on a aussi des lieux d'exposition et de valorisation patrimoniale qui se penchent sur ce sujet. On a par exemple le Grand Palais Immersif qui fait une exposition sur cela. On a par exemple aussi la Philharmonie de Paris qui avait fait une exposition l'année dernière sur le hip-hop 360 degrés. Et puis on a aussi le Centre des Monuments Nationaux. Et on va pouvoir en parler dès à présent. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un peu un cadrage général avant de parler un petit peu plus dans le vif du sujet avec nos deux interlocutrices. Et pour commencer cette discussion, je vais donner la parole au musée avec Susanna Gallego-Cuesta, qui est arrivée donc au Musée des Beaux-Arts de Nancy en 2019, dans une ville où l'art urbain était déjà présent, à travers notamment le parcours Art dans Nancy. Et donc ma première question pour Susanna, ça va être comment toi, tu as découvert et appréhendé cet enjeu d'art dans l'espace public à travers la ville de Nancy, à ton arrivée ?
En fait, déjà merci d'avoir fait cette présentation, de mettre les musées si en avant. Donc s'il y a des artistes dans la salle, ne nous jetez pas des tomates tout de suite. Et merci pour l'invitation à RMN de pouvoir parler ici de ces questions-là. Parce que quand je suis arrivée en 2019 à Nancy, c'était avec un projet justement qui faisait la part belle à cette question de que peut le musée pour l'art urbain. Puisque mes prédécesseurs avaient été confrontés à ce problème, puisque c'était un problème. Les élus faisaient des commandes de murs pignons dans la ville et le musée ignorait superbement tout ça. Ce n'est pas de l'art, ou c'est de l'art populaire au mieux, donc à quoi bon s'en occuper ? Et ça commençait à devenir un peu problématique, puisque c'était par là que la population se sentait le plus attrapée par un discours artistique, et que le musée, lui, il était complètement largué. Donc la question s'est posée, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fabrique un projet pour ce musée que j'ai envie de diriger en ignorant la question, ou est-ce que je prends le taureau par les cornes ? Bon, j'ai pris le taureau par les cornes, grâce aux suggestions et aux idées soufflées par un certain Christian qui est par là, une passionnariat de la question qui m'a dit « Mais oui, mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible, il faut y aller ». En bonne profane, je n'ai pas vu le loup, j'aurais dû, mais je me suis attelée à construire un projet dans lequel le musée pouvait faire quelque chose précisément pour cet art qui se déploie dans l'espace public. Et donc l'une des premières choses a été de convaincre les uns et les autres sur place que cet ADN, cet art dans Nancy, est une sorte de collection hors les murs du musée, avec tous les problèmes que cela pose, bien sûr, puisque c'est une collection d'art éphémère et que les musées conservent des œuvres inaliénables pour, si possible, l'éternité. Bon, l'éternité en l'état actuel des choses, si c'est 200 ans, on sera content. Mais voilà, c'est tout le défi intellectuel que cela pose de conserver de l'éphémère, de mettre en valeur ce qui pour l'instant est de la commande publique, mais aussi être très attentif aux différentes créations spontanées, voire vandales. Donc on est un peu dans une very thin line de définition de ce que patrimoine veut dire. Et dans cette idée de s'occuper de ce qui se passe dans la rue, c'était aussi faire avancer le musée et le faire rentrer de plein pied dans le 21e siècle où il peinait à aller. Les musées sont des vieilles maisons, elles n'ont pas toujours été poussiéreuses, elles le sont peut-être de moins en moins. Et ça peut être des lieux de conversation. Bon, cette forme du musée forum est quelque chose de beaucoup plus, de plus en plus accepté, hein, et de plus, je pense que vous le vivez vous en tant que public et visiteur et visiteuse comme ça. Les musées sont des lieux où on peut discuter, et puis surtout des lieux où on peut échanger justement sur ces longues histoires de l'art, ces complexités, des questions que pose une intervention dans l'espace commun à tous. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai envisagé les choses, en fabriquant cette notion de collection hors les murs, qui peu à peu s'installe, puisque là maintenant, il y a l'une des régisseuses des collections, Florence Portalegri, qui s'occupe des œuvres dans l'espace public, avec les bonnes vieilles méthodes de musée, c'est-à-dire avec les cartels, les déclarations, tout ce qu'il faut, et puis le suivi des œuvres, et dès qu'il y a quelque chose, ben, on fait une déclaration de sinistre, et puis on est parti pour restaurer. On est en train de normaliser les choses. C'est peut-être un peu redoutable aussi pour les artistes qui nous regardent un peu éberlués, pour certains. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est bon, je passe, je mets un coup de peinture. Non, on gère. Ok, d'accord, c'est un peu étrange. Des dossiers d'œuvres, des trucs très, très musées, quoi. Et donc, très administratifs et très, très, très lourds parfois. Mais quelque part, qui sont le gage de pouvoir garder une trace aussi.
Et donc là, à l'écran, j'ai mis la brochure 2023, par exemple, de Art dans Nancy. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un parcours dans la ville où on peut voir plusieurs œuvres installées.
Les avantages de l'éphémère, c'est que du coup, on échappe au ministère, puisque les musées, vous le savez peut-être, toute acquisition pour un musée de France passe devant des commissions d'acquisition scientifique, régionale, des grands aréopages. Qui ne sont pas de tout repos et ne sont pas de toute simplicité. La bonne affaire avec un programme, une collection hors les murs, c'est que, comme elle n'est pas inscrite à l'inventaire courant du musée, on peut parfaitement la nourrir, l'alimenter, sans forcément passer par ces fourches codines de la validation. Bien sûr, nous avons nos systèmes de validation à nous, puisque c'est pas moi qui décide de ce qu'on fait dans la rue comme ça, j'aime pas. Bien sûr, il y a une logique géographique, on essaye de suivre les mutations de la ville, une logique, ce qu'on appelle un projet scientifique, une logique de parité, bien sûr, une logique aussi de travail avec les acteurs locaux, les artistes du territoire, mais aussi de la région, mais aussi au national et à l'international, essayer de faire se croiser un peu tout ce monde. Et donc, on est en train, non pas de quadriller la ville, parce que j'aimerais être riche, mais pour l'instant, je ne le suis pas. Je joue à l'euro million, pourtant. Mais l'idée est vraiment de faire de Nancy, en tout cas, c'est l'ambition, un musée à ciel ouvert.
Et donc là, par exemple, on a quelques exemples d'œuvres que l'on peut voir dans l'espace public, et j'avais noté qu'il y avait maintenant une quarantaine d'œuvres visibles dans la ville de Nancy.
Et des œuvres qui vont disparaître. Le grand mur que Momo a fait, que l'on voit là en bas de l'image, la caserne va être détruite, donc l'œuvre va disparaître. Donc on est bien triste. Mais d'autres qui naissent aussi tous les ans, quelques-unes qu'on vous dévoilera cette année. On a plutôt tendance à corréler les dévoilements d'œuvres plutôt au printemps, puisque mine de rien, la météo, ça joue, et la Lorraine, même si le réchauffement climatique est là, il fait un temps pourri. C'est comme ça. Donc pour essayer d'éviter de tuer les gens, pas forcément sous la neige, ça c'est la frustration, il neige pas assez, mais sous la pluie et l'humidité horrible, voilà, on essaye de vraiment faire ça au printemps, et notamment pour les rencontres urbaines de Nancy, pour Run, que nous organisons tout début avril depuis maintenant déjà 3 ans. Ouf, ça se dit vite, c'est assez, assez intense. Et donc, on essaye de vraiment corréler tout ça ensemble. Là, cette année, par exemple, dans quelques jours, donc du 6 au 14 avril, vous avez rendez-vous à Nancy. On espère qu'il ne pleuvra pas, parce que l'année dernière, c'était la drache, comme on dit en Lorraine. C'était dur, mais bon, on a quand même dansé, c'est pas grave. Vous découvrirez des œuvres, je vous parlais de corréler le travail des artistes locaux, nationaux et internationaux. On met le point final à un parcours avec le sculpteur Alex Chinek, qui est britannique. On va inaugurer le pèlerinage du Turfu avec Aletheia, qui est une artiste française. Et il y aura d'autres pièces aussi que nous vous inviterons à venir découvrir.
Et donc, pour revenir un petit peu sur RUN, les rencontres urbaines de Nancy, donc c'est un temps en fait, de rencontres à Nancy qui valorise les cultures urbaines. Donc là, on n'est pas uniquement sur les arts visuels, on est bien sur les cultures urbaines, donc les pratiques différentes dans l'espace public, à la fois artistique mais aussi sportive, comme le skate, le parcours ou le break, par exemple. Et c'est vrai que ça, c'est une initiative qui a été menée par la ville de Nancy avec Susanna, avec Christian. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, en fait, l'origine de RUN, et puis finalement aussi comment ça a pu donner naissance à plusieurs cycles d'exposition. Et on va voir ensuite quelques images, notamment de Fire on Fire.
Bah, tout est né d'un malentendu. Comme j'y connaissais rien, j'écoutais les gens. En tout cas, c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à tous ces domaines de l'art urbain, on entend très très vite et très rapidement les différents acteurs et actrices de ces domaines dire « mais on ne peut pas séparer les disciplines ». La culture hip-hop, c'est plein de choses ensemble, c'est tout un tas de disciplines inséparables, le writing, la musique. Donc on l'entend une fois, deux fois, trois fois, et on se rend compte que c'est effectivement une réalité. Que les praticiens d'une discipline sont aussi ceux qui plongent dans une autre, et que chacune se nourrit. Bien sûr, ce sont des pratiques toutes qui engagent le corps, comme tu le disais, Cécile, et qui engagent le corps dans l'espace public. Donc c'est une question d'occupation d'un espace qui appartient au collectif, mais c'est aussi une manière de rendre à ce collectif quelque chose. Et donc, ces rencontres urbaines, c'était un peu dans la volonté de visibiliser tout ça. Et avec cette idée, je viens du monde de la photo. Et les rencontres d'art le sont un moment très, très important dans toute vie de l'univers photographique, quel qu'il soit sur le globe. Puisque c'est le moment où, là, pour le coup, il ne pleut pas. On va pour mourir de chaud et se faire bouffer par les moustiques. Comme quoi, la culture, c'est vraiment un sport de combat. Et aux rencontres d'Arles, il se passe vraiment des choses très importantes à l'année. On se rencontre, on se voit, on se parle, on fait des choses. Et l'ambition des RUN, comme sont en train de m'apprendre à dire les acteurs locaux, les RUN, bah oui, les rencontres au pluriel. Ces RUN sont là pour permettre ça, pour permettre ce temps d'échange et de fête aussi, d'où le fait qu'on a concentré un peu. Ça évolue parce que c'est une toute jeune manifestation, donc qui me dit que ça ne va pas s'allonger ou pas, puisque le breaking est très vivant dans la métropole nancéenne. L'un des entraîneurs de l'équipe de France fait partie des gens avec lesquels on travaille. Et puis, vraiment, les breakeuses sont à fond et sont des partenaires précieuses dans tout ça. Donc, il y a vraiment là une volonté de faire avancer aussi des choses et peut-être, du coup, d'aller toucher des publics scolaires pendant les vacances et donc de changement de date. Bon, enfin bref, je vous épargne la cuisine. Mais ces RUN, donc, partent du musée, ce qui est très compliqué à comprendre pour les acteurs de la scène urbaine, parce qu'il y a une conservatrice du patrimoine qui débarque et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? C'est assez compliqué. Bon, peu à peu, l'idée passe que tous les printemps, on lance un mouvement avec une exposition de, si on y arrive, autour de toutes ces questions, que ce soit celle que tu montres à l'écran, qui était la toute première que nous avions montée ensemble avec Christiane, Fire on Fire, sur les liens entre l'art et la musique, et la rue, bien sûr. Que ce soit des expositions monographiques, comme celle qu'on est en train de préparer avec Aletheia, qui s'appelle l'Egotarium. Donc les expositions sont un peu le fil rouge de notre proposition annuelle, des expositions qui durent du mois d'avril jusqu'à l'automne, mais ensuite avec ce temps de rencontre qui consiste en des invitations à intervenir au musée, des inaugurations d'œuvres dans l'espace public et surtout des moments de conversation entre professionnels. Cette année, j'ai la chance de compter sur toi, Cécile, pour animer une journée de discussion qui donne lieu à des captations aussi. Nous essayons de créer aussi une archive visuelle et orale, à défaut de pouvoir créer un centre de documentation comme je rêverais de faire en bonne personne de musée que je suis. Il faut que ça reste gravé dans le marbre. Donc on essaye de faire avancer la question en multipliant les initiatives à notre petite échelle, mais en créant un lieu dans lequel le rendez-vous devienne peu à peu, si possible, marqué dans le calendrier de tout le monde.
Donc là, on a à l'écran une vue de cette exposition qui avait eu lieu fin 2019, début 2020, et qui s'était aussi... qui avait été aussi, pardon... En plus, accompagné d'interventions in situ autour du musée, est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, un peu ce projet qui avait été fait avec le collectif Wine Up ?
Ça c'est le genre d'obsession qui ont la vie dure dans ma tête. Je voulais foutre le feu au jardin du musée, et c'est ce qu'on a fait grâce au Wine Up. Maintenant, je continue, mon fantasme, mon vrai fantasme, c'est de faire un grand méchoui gratuit, vegan friendly. Et bref, donc les One Up, on leur avait proposé de réitérer une pièce qu'ils avaient déjà fait par ailleurs, et donc ils s'étaient installés dans le jardin du musée pour un moment extrêmement contemplatif. Ce jardin qui est petit à petit en train de devenir un jardin de sculpture grâce à un certain nombre d'artistes, et je vous invite à venir voir puisqu'il y a peut-être une surprise qui arrive au mois de juin, et Sif nous fait un cadeau, vous verrez.
Et donc, comme tu le dis, il y a eu des cycles d'exposition. J'en ai mis aussi deux autres exemples. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'intervention d'Ariz au Musée des Beaux-Arts de Nancy ?
On a présenté son travail de recherche graphique, puisqu'il avait fait une très très grande pièce in situ qu'il voulait remontrer, dont vous voyez un peu la moitié. C'était un grand rideau de scène qu'il a installé au musée. Et puis c'était surtout ses dessins et son travail de recherche plastique qu'il continue, puisque c'est quelqu'un qui cherche et cherche encore, et j'aimerais bien montrer 10 ans après, donc en 2029, ça se dit vite, ça arrive après-demain, en 2029, faire une vraie rétrospective de ce travail, puisqu'il aura vraiment parcouru un arc créatif très important, Ariz. L'autre exposition, je pense, à laquelle tu penses, c'est celle que nous avons fait l'année dernière avec Faith 47, qui était aussi consacré à ce travail de recherche plastique qui préside. Là, vous avez affaire à deux peintres, Faith et Ariz. Et donc, chez un peintre qu'il ou elle travaille en extérieur ou en intérieur, la pratique du dessin reste quand même une pratique fondationnelle. Ce qui fait que du coup, nous pouvons parfaitement montrer ce travail indoors, puisque c'est l'un des enjeux très forts pour le musée. Montrer le travail d'artistes qui s'expriment dans l'espace public sans les transformer en timbre-poste et sans dévoyer leurs propos et leur réflexion contextuelle. Le but n'est pas de prendre des pièces de l'extérieur et de les mettre à l'intérieur en croyant que cela ne fait rien aux œuvres, au contraire. L'idée est de montrer, et justement c'est là que le musée a quelque chose à apporter, je pense, c'est d'apporter des espaces d'expérimentation et des espaces où le processus créatif peut être mis en valeur, puisque les œuvres de la collection, qui va depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, sont pour beaucoup d'entre elles aussi, on a une collection d'art graphique assez impressionnante, sont pour beaucoup d'entre elles l'expression de cette recherche. Et donc inviter des artistes vivants à s'exprimer, à montrer leur recherche et à mettre en danger aussi leur recherche, à se frotter à autre chose dans un espace sécure qui peut être le musée, est une très bonne manière, je pense. C'est pas pour nous jeter des fleurs, mais je pense que c'est l'une des manières de résoudre ce problème de comment montrer l'extérieur à l'intérieur.
Donc là, on est sur des exemples d'expositions monographiques, mais l'idée aussi, c'est parfois de faire des focus un peu plus sur des techniques ou sur une histoire de l'art urbain. Et je pense que je peux citer...
On dévoile.
vous dire que nous, avec la Fédération de l'art urbain, on porte un important projet qui s'appelle le Centre Arcane, qui est le Centre national des archives numériques de l'art urbain. Qui est un nom un peu long pour désigner un site internet qui va ouvrir en fin 2024 et qui va être amené à présenter des archives et des documents sur l'art urbain, à la fois à travers des événements, donc ça peut être des expositions, à travers des lieux, des territoires, et à travers aussi des fonds d'archives d'un producteur ou d'une productrice spécifique, par exemple une artiste ou un photographe. Et dans ce cadre-là, donc on travaille avec toute une équipe de chercheurs indépendants qui viennent vraiment de la pratique, notamment du graffiti et du post-graffiti. Notamment, je citais trois personnes importantes, Nicolas Xelet, Gauthier Bischoff et Patrice Poche. Et dans ce cadre-là, ils mènent des recherches sur l'apparition de la bombe aérosol en France et sur l'utilisation de cette bombe aérosol dans le secteur de la rue et par des artistes dits urbains. Et on a de la chance parce qu'on est accompagné par des musées qui sont intéressés sur ce sujet. Donc cette exposition, elle va ouvrir en juin au Musée des Beaux-Arts de Rennes et elle va être amenée à voyager, à traverser d'ouest en est la France pour arriver là où il pleut mais où on mange des bons pâtés lorrains.
Ouais.
Et donc au Musée des Beaux-Arts de Nancy. En avril 2025, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette exposition qui va arriver ?
Déjà le titre, Aérosol. Une histoire du graffiti en France, qui est le résultat de longues recherches et on espère que le livre sortira au moins pour Nancy. Et donc c'est une exposition historique, c'est là que les musées, et le musée de Rennes est tout à fait sur la même longueur d'onde, c'est là que les musées nous jouons à plein notre rôle. On est des lieux de l'historicisation, des lieux de construction d'une mémoire artistique dans nos deux cas, puisqu'on est des musées des beaux-arts, et on remplit à plein notre rôle institutionnel en faisant ce genre d'exposition. Et on en discutait, Claire, la collègue de Rennes, m'a beaucoup fait rire, un peu jaune aussi, en disant « J'espère juste que les gens qui viendront attirés par le mot graffiti ne se plaindront pas du fait qu'il n'y a pas Banksy ». Parce que c'est une véritable exposition de recherche complexe qui met à jour, il y a vraiment de la nouveauté scientifique dans cette exposition. Et on se dit que c'est vraiment une exposition de spécialistes. Donc le profane qui passerait par là, qui sera-t-il déçu de ne pas voir Banksy ? Bon, je la rassurais en disant qu'il y a quand même des trucs merveilleux et étonnants. Donc en principe, si tout va bien, on croise les doigts, les gens qui rentreraient pour les mauvaises raisons sortiraient en ayant compris quelque chose, donc ne regretteraient pas les mauvaises raisons d'entrer. Donc on va voir.
L'idée, c'est aussi de faire découvrir d'autres choses, en fait, d'expliquer que c'est plus pluriel et plus complexe que simplement un nom. Et qu'en France aussi, il y a eu vraiment toute une scène qui s'est saisie très tôt de cet outil-là. Un outil qui n'était pas dédié à l'origine au graffiti, hein, qui était vraiment pour peindre les voitures et qui a été réemployé d'une autre manière. Donc voilà, on vous donne rendez-vous en juin à Rennes et puis en avril à Nancy avec à chaque fois des focus sur les territoires. Donc c'est aussi des expositions à la fois itinérantes, mais qui s'adaptent au lieu où ils sont invités. Donc comme tu le disais tout à l'heure, l'enjeu d'un musée, c'est aussi la patrimonialisation ou la matrimonialisation, donc l'acquisition d'œuvres, d'objets qui peuvent venir de la rue ou qui sont faits en atelier, mais qui illustrent une pratique. Est-ce que le Musée des Beaux-Arts de Nancy, par rapport aux artistes urbains, s'est penché aussi sur des enjeux d'acquisition pour créer une collection ?
Oui. Pas pour créer une collection à part, mais donc je le disais, le musée conserve des œuvres qui, pour les plus anciennes, datent du XIIIe siècle et va jusqu'à l'art contemporain. Cet art-là est de l'art contemporain, donc dans la limite de nos moyens, maigres moyens, trop maigres moyens, avis aux mécènes ici dans la salle, on prend nos très maigres moyens, j'insiste. On acquiert vraiment pour les collections d'art contemporain. Et c'est comme ça qu'on a fait rentrer, pour l'instant, timidement, des pièces. L'une des premières acquisitions a été un portfolio donc, de la sérigraphie, parce que, bien sûr, dans les collections d'art graphique, nous avons un fonds assez incroyable et que ce genre d'objet, donc c'est un portfolio dont Aletheia, justement, a été la directrice artistique, et qui contient 12 blases de grands graffeurs et graffeuses français. Donc l'objet est un objet calligraphique, et il a été présenté en commission d'acquisition. C'est passé comme une lettre à la poste, alors que je pensais qu'il allait falloir que je justifie un certain nombre de choses. Bon, d'accord, donc ok. Moi j'allais à la bataille et il ne s'est rien passé, super. L'objet est très beau, hein, mais bon. Une autre acquisition a été un ensemble, une sculpture verrière réalisée par Alex Wan au centre de création verrière de Vannes-le-Châtel avec lequel on travaille, qui est juste à côté de Nancy et qui est une installation qui est aujourd'hui dans les salles du musée. On est en train d'acquérir d'autres pièces. On a acquis une sculpture en calcaire qui est déjà installée dans le dans le jardin un sculpteur local, Jean-Guy Latreille, qui a une pratique urbaine, certes, mais surtout très pop. Il y a ce projet avec Essif dont je parlerai aux amateurs dès que vous voudrez. Et petit à petit, on est en train d'avancer dans les acquisitions avec l'idée que toutes ces expositions, un peu cette idée de la boucle vertueuse, si tout va bien, que chaque exposition doit donner lieu à une trace dans la collection, que ce soit une acquisition d'œuvres, une archive, un échange, un livre, que vraiment cela revienne et que toutes nos initiatives laissent vraiment une mémoire physique dans les collections et pour l'avenir.
Donc finalement, en faisant ces expositions, on marque l'esprit, on marque un nouveau référent. On explique aussi ce qu'est l'art urbain à des gens qui ne le connaissent pas. On peut avoir un public amateur. Et donc, tu parlais de ces comités d'acquisition qui sont des moments assez joyeux où on a aussi en face de soi des gens qui peut-être ne connaissent pas l'histoire de l'art urbain, parce que c'est une discipline qui n'est pas étudiée, qui est assez peu travaillée aussi en histoire de l'art. Et donc, tu disais que c'était finalement assez simple dans les échanges.
Tant qu'on est dans des formes reconnaissables, donc le portfolio, l'objet graphique, ça s'est bien passé. La pièce verrière, peut-être parce que c'était un don aussi, c'est passé plus facilement. Mais là on commence à pousser le bouchon un tout petit peu plus loin, parce que l'un des gros débats dans ces commissions d'acquisition, c'est on est autour de la table, on est plusieurs spécialistes de différentes disciplines. L'une des choses qui revient souvent, très souvent, pour l'art contemporain, c'est que c'est trop cher. Les vivants, c'est toujours trop cher. Mais je pense que tout le monde dans cette salle a cette expérience. Quand votre plombier vous donne sa facture, vous dites c'est trop cher. Les vivants, ça coûte trop cher. On aurait toujours mieux fait. Ça coûtera toujours moins cher si c'est... Bon, enfin bref. Hors blague, avec les artistes vivants, c'est très compliqué parce que c'est une cote, comment ça se fabrique, quel est le juste prix d'une œuvre d'art, et encore plus pour des gens qui viennent de la rue. Qu'est-ce qu'ils ont à réclamer de l'argent? Ils font des Mickey dans la rue, qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi ils voudraient être payés pour ça? Et donc, essayer d'expliquer, c'est pas forcément un débat esthétique que l'on a en commission. Et c'est frustrant, parce que moi j'aimerais bien qu'on aille dans le débat esthétique. C'est souvent des débats pécuniers, parce que c'est vraiment toute la structure du marché de l'art qui est problématique. Et des artistes qui ne sont pour certains pas du tout dans le marché de l'art, et auquel on dit, ben, on va mettre ce prix, on discute un prix avec les artistes. C'est compliqué aussi pour un artiste de fixer un prix à son travail. Ça m'est arrivé, l'acquisition de cette fameuse sculpture. Cette dernière sculpture, la discussion a été, quel est ton prix? Je dis, je sais pas. Bon, d'accord, on en discute. Et vraiment, on en vient des gens qui sont pas en galerie, qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas voulu avoir accès à des circuits de la valorisation économique. Résultat, en commission, c'est compliqué. C'est ça qui est compliqué.
Donc, quand avait été faite l'étude nationale sur l'art urbain en 2018 avec l'équipe du Mur, on avait fait un état des lieux des acquisitions patrimoniales d'œuvres issues de l'art urbain. Donc, on avait vu que c'était assez maigre. Hein. Le MUCEM a une très importante collection, mais le MUCEM, c'est un musée de société. Donc, il n'aborde pas l'objet de la même manière qu'un musée de beaux-arts. On avait trouvé une collection importante de pochoiristes dans le fonds municipal de la ville de Paris. Et puis finalement, après, ça se comptait un peu sur les doigts d'une main. Donc c'était en 2018-2019. Là, on est en 2024 et on va faire un peu une actualisation de ces acquisitions en 2024. Donc on verra s'il y a eu davantage de choses. Mais moi, ce qui me semble important là, c'est qu'avec l'exemple de Susanna, c'est aussi de montrer comment une personne dans une institution peut faire bouger les lignes avec une volonté très forte, un enthousiasme, une motivation. Et c'est vrai que pour ce milieu, on en a fortement besoin, parce qu'il nous faut des alliés. Ils ne sont pas très nombreux et ce sont des personnes qui bataillent au quotidien aussi pour faire comprendre ce qu'est cet art de rue et comment il peut être abordé par une institution dite un peu plus classique. Donc pour poursuivre un peu sur l'aspect peut-être un peu plus classique et puis un peu plus ouvert aussi, on va prendre la parole avec Laure, dans l'idée aussi de voir comment on peut défendre les pratiques de rue d'une autre manière. Moi, ce que j'ai retenu quand on a préparé cette table ronde, c'est que tu t'intéressais depuis longtemps au graffiti, dans une définition très très large, en fait, de ce qu'est le graffiti, hein, dans une définition qui a été portée par le secteur archéologique, notamment, et qui désigne généralement les inscriptions ou les expressions populaires écrites de manière spontanée et non officielle, qui sont anonymes, gratuites et qui sont vues par toutes et tous. Donc les graffitis peuvent s'écrire sur les murs et ils se distinguent généralement des autres déclarations dites officielles et existent finalement depuis l'Antiquité sous cette définition-là. Donc peut-être pour commencer, j'aimerais que tu nous dises un peu comment tu as pu commencer à aborder cette notion dans tes travaux de recherche.
Vaste sujet. C'est dur de prendre la parole après ce beau sujet et devant autant de monde. Donc moi, je suis déjà... C'est cool, en fait, c'est vrai. C'est marrant parce qu'en écoutant Susanna, c'est une histoire de personnes du passé, c'est une histoire de personnes du présent qui pensent à un futur. Je t'écoutais, tu disais, c'est comment on transmet et on entretient, mais en fait, c'est comment on construit cette mémoire-là. Et je pense, moi, c'est ça qui m'a intéressée. Et ça rejoint ce que tu disais aussi, les collections aujourd'hui qui viennent de l'art de la rue au sens large, on les a trouvés beaucoup au MUCEM, qui est un musée de société versus un musée de beaux-arts. Et moi, tout vient de là. Voilà. Peut-être que j'ai jamais fait la généalogie de pourquoi je me suis intéressée au graffiti. Je pense que c'est des sujets aussi très personnels pour plein de gens qui travaillent sur ce sujet. En tout cas, le regard, moi, il est venu effectivement d'un aspect plus sciences politiques et sociologie. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette pratique? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette histoire derrière nous qui surgit? Et c'est comme ça qu'elle a émergé aussi. Je ne suis que un petit pion dans un échiquier d'acteurs qui se sont intéressés à ce sujet, et notamment des sociétés savantes qu'on oublie tout le temps, qu'on met de côté, que voilà, de gens qui n'existent pas forcément pour le grand public, mais qui sont ceux qui ont fait des moulages il y a maintenant 50-60 ans, qui ont été documentés certains éléments, qui ont été cherchés dans des traces, dans des, par exemple, des relevés d'écrous, c'est-à-dire des prisonniers. Vous avez beaucoup, beaucoup de graffitis dans les lieux qui étaient des prisons avant. Et ça, je pense que c'est un goût pour l'histoire aussi qui donne cette envie-là. Et au final, moi, je le résume souvent comme ça. Alors, c'est comme ce que tu disais au début. Il n'y a pas une seule définition. Je ne revendique pas du tout d'être... voilà. Il n'y a pas de, vérité dans le graffiti. Et c'est d'ailleurs ce qui en fait la force et la richesse. C'est une matière vivante. Et en fait, c'est le résumé de la voix des sans-voix. Je le dis souvent comme ça. Et c'est ce que je pense vraiment fondamentalement. À toutes les époques, quelqu'un qui a laissé une bouée, un message, pour que quelqu'un le retrouve derrière. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. En rencontrant des gens qui avaient travaillé sur l'angle, on va dire, historique, sociologique. Et en essayant, ça rejoint un peu ça, de pousser un peu la porte de l'univers des beaux-arts. Et j'ai réussi, ce qui n'est pas moi en tant que personne, et ça a arrangé tout le monde et tous ceux qui travaillent sur ce sujet, à faire un mémoire d'histoire de l'art sur les graffitis. Truc de dingue sur les graffitis historiques, avec quelqu'un qui a en plus un nom important dans l'histoire de l'art. Donc tout d'un coup, ça donnait une crédibilité à cette réflexion-là. Et ça mettait un projecteur sur une matière qui, il y a 20 ans ou 30 ans, n'était pas considérée, en fait. C'était vraiment ce qui abîmait les monuments. Alors qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est une pratique qui existe, mais depuis largement l'Antiquité. Je prends souvent cet exemple-là. En Égypte, il y a des scribes. Leur métier, c'était cette écriture officielle. Je viens, je calligraphie à l'intérieur. Mais ces scribes-là, quand ils étaient en route pour aller du point A au point B pour aller graver dans un tombeau X ou Y, ils ont aussi laissé des graffitis pour raconter leur vie à eux. Moi, scribe, machin, je vais écrire pour le grand roi Pharaon, etc., tout ce qu'on veut. Mais j'ai aussi une vie, j'ai aussi une mémoire. Et c'est ça qui est très important et qui, moi, m'intéresse et m'interpelle, et comment on retranscrit ça. Donc, on le montre à travers l'histoire, à travers la sociologie, c'est ça que moi, je trouve intéressant. On en a mis deux derrière. Alors, il ne faut pas que je commence à tout raconter, mais si, quand même, je vais prendre deux secondes pour non, cela.
Oui, ils sont en pause. Oui. Ouais. Non, mais l'idée aussi, c'était peut-être de voir comment toi, tu as abordé la question du graffiti, vraiment au sens très, très large, en incluant le graffiti dit « writing » avec de la bombe à aérosol. Exactement. Mais que finalement, c'est quelque chose qui est bien antérieur.
Et bien antérieur. Et en fait, moi, je l'ai repris comme ça et je l'ai travaillé dans les espaces d'enfermement où il y a beaucoup de matière. Ce que vous avez derrière, c'était dans deux lieux d'enfermement, en fait. Le donjon du château de Vincennes, il y a, à différentes époques, à différents moments, vous avez celui de gauche qui est beaucoup plus ancien. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on ne s'en sort pas, mais je pourrais raconter ceux qui veulent derrière. Et un qui est de 1850, où là, on a une écriture et vous avez un graphisme très spécifique. Vous voyez bien que ce n'est pas la même époque. Vous voyez bien que ce n'est pas la même personne. Et néanmoins, vous avez des endroits où il y a des échos, où il y a une typographie, où il y a une organisation même de l'espace qui est pensée. Si vous allez au Château d'If, dans la cour, vous avez un certain nombre de graffitis qui sont encadrés de la même manière, structurés de la même manière. Et en fait, il y a cet écho, c'est-à-dire une pratique. Alors, ça ne recoupe pas du tout tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Ce n'est pas de l'art urbain en tant que tel. Il n'y a pas toutes les formes différentes. Mais cette pratique de graffiti, elle existe depuis longtemps. Et juste pour, je vais terminer juste là-dessus, la définition, que moi j'ai prise, elle est triple à chaque fois. C'est l'étymologie du mot, hein, tout simplement. Le graphène, en fait, c'est un petit stylet, on pourrait dire, qui permet de graver. Mais ça veut dire aussi graphène, écrire, et ça veut dire aussi gratter. Et c'est ces trois choses-là à la fois. C'est je vais écrire, je vais dessiner, et je vais gratter pour laisser mon empreinte quelque part.
En tout cas, ces pratiques, elles font écho à l'art urbain, c'est-à-dire qu'on est dans un travail in situ, avec une volonté d'exister, de laisser sa trace. Et nous, ce que l'on constate quand on l'étudie, c'est que ces écritures-là, elles ont inspiré aussi des artistes urbains. Donc on a une cohabitation en fait, de pratiques plastiques et différentes dans un même lieu qui s'interconnectent. Et ça, on va pouvoir donner après un exemple avec Lek et Sowat. Et en travaillant sur ces graffitis, finalement, ce que toi, tu m'as dit, c'est que tu avais constaté qu'ils étaient extrêmement présents dans les monuments nationaux, avec donc cette valeur esthétique dont tu parles, et une réelle beauté aussi, parfois, sur certaines inscriptions ou certains dessins. Donc, j'ai mis d'autres exemples à l'écran. Et on en retrouve aussi dans l'exposition Loading de Christian, avec ses photographies de Brassailles ou ces personnes en fait, anonymes qui ont laissé des traces, ou non anonymes finalement, mais qui n'étaient pas considérées comme artistes. Et puis en 2018, il y a eu cette collaboration donc, avec le Centre des Monuments Nationaux. Le Centre des Monuments Nationaux, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un autre acteur clé hein, avec le musée qui est financé par l'État et qui conserve gère et ouvre à la visite plus de 100 monuments allant de la préhistoire au XXIe siècle. Et donc l'idée en 2018 avec eux, c'était de lancer une nouvelle programmation pour faire du lien et pour attirer aussi d'autres publics. Et donc le graffiti a semblé être une piste possible pour raconter une histoire des monuments et du patrimoine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Ouais, je vais vous raconter cette histoire. C'est marrant parce que ça rejoint toutes ces questions de est-ce qu'on est historien de l'art, est-ce qu'on est conservateur du patrimoine, est-ce qu'on est autre chose. En fait, moi, j'ai cette chance d'avoir comme métier de travailler dans le monde de la culture, mais du côté opérationnel. Donc moi, en 2018, j'étais directrice de la stratégie, de la prospective et du numérique au Centre des Monuments Nationaux. Rien à voir avec les graffitis, non mais rien, comme ça, sur le papier. Mais du coup, j'étais dans la maison. Ce qui veut dire que ben parfois, j'allais sur le terrain, j'allais au Panthéon, je monte tout en haut du Panthéon et je découvre des milliers et des milliers de graffitis. Je vais autour de La Rochelle et je vois ce graffiti qui est à droite. Comme je dis souvent devant celui-là, moi, vous m'enfermez en prison pendant même 10 ans et vous me laissez tous les outils pour le faire, je ne fais pas quelque chose comme ça, en fait. Donc les personnes qui ont fait ça, c'est pas vous, moi. Enfin, si, c'est vous, moi, mais certains qui avait un certain talent, qui avait un certain métier et qui racontait ces choses-là. Et quand on travaille dans le monde des monuments historiques, il y a tous ces métiers qui existent encore aujourd'hui. Quand on vous parle du chantier de Notre-Dame, on vous parle des tailleurs de pierre, parce qu'il est là aussi le talent et la préservation qu'on met. Et ça, c'est d'autres personnes qui ont habité à un moment ces monuments et qui racontaient une autre histoire. Donc en fait, l'endroit où j'étais, pas avec un rôle de conservatrice du tout, mais a fait que j'ai pu avoir accès à ces éléments-là. Et en 2018... Donc cette histoire ne sort pas de cette pièce, mais elle est vraie. On faisait un bilan sur la programmation, donc avec ma casquette de mon rôle normal, hein, enfin mon métier. La programmation de l'année précédente était sur les tapisseries. Sujet pas simple, qui attire pas forcément plein de public, mais qui a aussi cette connexion entre un métier d'art, une histoire et puis une certaine modernité. Et discussion avec le président du CMN, qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine comme sujet. À l'époque, je faisais mon mémoire en histoire de l'art sur les graffitis, dans les espaces d'enfermement. Donc j'avais comme matière de travail ces recherches-là, les éléments du CMN. Et en fait, dans cette discussion, a été proposé qu'on fasse une saison graffiti et je me suis retrouvée commissaire de cette saison. J'étais quelque part au bon endroit au bon moment et c'était très simple du coup parce que j'étais, et c'est marrant que tu montres ça, j'étais la commissaire de l'exposition, j'étais la directrice du catalogue, donc déjà il n'y avait pas de problème pour savoir si on pouvait utiliser les textes et les photos entre les deux, et j'étais en charge du numérique, donc les applications de visite et tout ça, c'est la même personne qui dialoguait dans son cerveau avec les deux autres, donc c'était assez simple. Ce qui est souvent une complexité en vrai, dans tout ce que tu racontais sur la conservation, etc. Et j'ai la chance, j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler avec Philippe Bellaval, qui est quand même une personne exceptionnelle, qui était le président du Centre des Monuments Nationaux, et qui, à l'époque, m'a laissé faire ça, alors que on est quand même dans des monuments classés où il est interdit de faire des graffitis. Vraiment interdit et vraiment poursuivi pénalement. Donc, c'est une ambivalence assez compliquée. Qu'est-ce qui fait que ce graffiti a de la valeur ? Qu'est-ce qui fait que ce graffiti ancien, on peut le garder ou pas ? Et donc, on a choisi de lancer cette saison. Ah voilà, merci, c'est mon pense-bête. En vrai, Cécile disait qu'il y a 100 monuments dans le Centre des Monuments Nationaux. Je pense qu'il y en a 70 où il y a des graffitis de qualité.
on ne pouvait pas tout faire. Et moi, l'enjeu, il était de me dire, cette saison, elle permet, exactement comme ce que vous disiez sur la Robin, de documenter, de classifier. Il faut savoir que les graffitis, c'est comme tout le reste, ça apparaît et ça disparaît. C'est difficile à protéger. Les graffitis que vous avez vus avant, qui sont sur les murs des tours de La Rochelle, bah, ils sont exposés à l'eau, au sel, au vent. La pierre, ça disparaît. Donc on avait un premier sujet qui était de faire un recensement, d'avoir des archéologues qui travaillent dessus, de faire des recherches pour trouver d'où ça venait, de faire des campagnes photos, et puis ensuite de les mettre en valeur et d'avoir des parcours. Et donc le choix a été extrêmement difficile. Donc on a fait un mix de... Bon, bah, y en a certains où on va faire une exposition. Donc c'est, vous voyez, les 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ça, c'est ceux où il y a eu une exposition qui a été pensée entre le siège, donc coordonné avec la direction des publics, la direction des expositions et un peu moi, et puis les administrateurs qui sont en gros les chefs dans chacun des sites. Et puis vous voyez, d'autres graffitis à explorer, bah, c'est ceux, j'espère bien un jour qu'il y aura un tome 2, qu'il y aura une autre Laure Pressac qui ira au CMN et qui dira « faisons une saison graffiti » et qu'elle pourra faire la suite, parce qu'il y a encore toute cette matière à explorer et à creuser. Et on a fait ce choix des neuf à la fois parce qu'on voulait... Le CMN est une structure présente sur toute la France, et pour moi il y avait cette volonté de montrer que exactement ce que tu dis, c'est pas un phénomène parisien ou à tel ou tel endroit, c'est une pratique universelle qu'on trouve partout, à toutes les époques, sous toutes les formes. Et on a fait un mix aussi, donc vous avez les remparts d'Aigues-Mortes, donc ça c'est la partie graffiti protestant avec le Régister qui est l'équivalent, moi je dis souvent, de la Mona Lisa du graffiti, parce que c'est un geste qui implique la résistance. C'est juste un mot, mais sur la parcelle d'un puits qui raconte beaucoup de toute cette résistance-là. En passant par l'abbaye de Montmajour, où c'est des graffitis du XIIIe siècle qui sont sur le cloître intérieur. Le Panthéon, où il y en a de différentes époques, on en montrera un tout à l'heure, je pense. Et puis jusqu'à Pierrefonds, où c'est des graffitis qui datent de la Première Guerre mondiale. Donc à toutes ces époques-là, parce que ces lieux ont été utilisés et ont eu différentes vies, on a retrouvé des graffitis. Donc on a voulu raconter ça et raconter ce qui se disait sur les murs. C'est marrant parce que tu as commencé par ça. La seule définition que moi j'ai gardée, bah, c'est sur un mur. Mais en même temps, c'est pas vrai, parce qu'il y en a aussi qui sont pas que sur les murs, qui sont ailleurs. Mais c'était ça qui les unifiait, c'était je vais raconter la vie des monuments et surtout la vie des gens qui y sont passés à travers ça. On a fait une collecte, donc des recensements, on a été faire des recherches pour documenter, on a mis en place des panneaux explicatifs des textes, et une des choses qui était très importante, vous allez souvent voir des expositions temporaires, moi l'enjeu c'était que ça reste derrière, parce que mon souhait, évidemment c'est pas comme ça que je l'ai présenté, voilà, c'était de dire ce serait bien que ça reste dans le temps. Si vous allez aujourd'hui au Château d'If, les panneaux que vous voyez de visite datent de 2018, voilà. Exposition temporaire qui reste permanente et qui permettent de raconter sous un certain angle cette exposition-là et la vie du monument. Et puis, dernier point, on avait travaillé sur une exposition d'entrée, on va dire ça comme ça, parce qu'évidemment on est dans un réseau, si vous allez à Montmajour, si vous allez à If, vous allez avoir une certaine histoire, mais c'était important pour moi que justement on raconte cette histoire de la compréhension, de la connaissance des graffitis, les gens qui avaient participé à son émergence, et on a choisi de les faire au château de Vincennes. Pourquoi ? Parce qu'il y a différentes époques à l'intérieur du château de Vincennes et que c'est aussi un lieu qui est très marquant et très important pour un certain nombre d'artistes de la scène, alors du street art, de l'art urbain, vous choisissez le mot que vous voulez, je ne vais pas rentrer dans le débat de définition, mais notamment un artiste qui s'appelle Zeus, qui avait été exposé l'année d'avant au CMN, donc je n'ai pas amené l'art urbain au CMN, il y avait déjà des expositions d'artistes de la scène street art contemporain très régulièrement dans un certain nombre de monuments du CMN. Encore une fois, c'est pas parce qu'on conserve des monuments qui sont anciens qu'on n'est pas moderne, loin de là. Et Zeus a une histoire avec le château de Vincennes, ne serait-ce que son nom, qui est celui du RER qui prenait, c'est le RERA pour ceux qui connaissent, qui va vers l'Est, qui passe souvent à Vincennes, et voilà, qui a failli un jour le renverser, son nom vient de là aussi. Et il avait fait, étant jeune, des tags sur le château, il avait fait une exposition l'année d'avant, ça avait du sens pour nous de faire du château de Vincennes la clé d'entrée sur ce sujet-là. Donc on a montré ce qu'était le graffiti, on a emprunté certaines œuvres et on a essayé de raconter en partant de témoignages historiques avec des pièces qui pour moi sont chargées d'histoire. Par exemple, ce qui a été mis au jour dans le 93 à Drancy, qui sont les dernières traces de prisonniers qui sont partis pour les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui sont des graffitis. Et puis par exemple des moulages du plancher de Joachim, qui est en fait un revers de plancher qui a été gravé dans un château à Picontal par quelqu'un qui était un menuisier qui a réparé le plancher et au dos du plancher a écrit « Toi qui lis ces lignes, a priori, tu es comme moi, un genre de peu. On pense qu'on ne sait pas écrire, on pense qu'on n'a rien à dire. Pense bien à laisser ta trace et à raconter notre histoire, sinon personne ne la racontera. » Je ne le dis pas texto, mais le propos, c'est un peu ça. Puis derrière, il raconte toutes les chroniques du village. Parce qu'il sait très bien que, comme c'est son métier, personne ne viendra avant 100 ans. Il sera mort, il craint rien. Donc il y a toute la vie, toutes les horreurs que le châtelain a fait. Et c'est extrêmement important. Et quand vous commencez à travailler sur le graffiti, c'est ça que ça raconte. Dans une époque où on s'interroge sur la voix des minorités, la préservation des voix différentes, le graffiti est une source et une richesse incroyable là-dessus. Je vais m'arrêter, sinon j'y passe 15 heures, mais c'est pareil sur les Incas. Vous avez des gens de l'école du Louvre qui travaillent sur ça et qui trouvent dans des maisons qui ne sont pas les grands temples où il y a les grands chefs à plumes, d'autres iconographies, d'autres images, d'autres graffitis qui racontent la vie du peuple. Donc c'est ça qu'on a cherché à faire. Et on a ouvert la voie à un dialogue avec les artistes de l'art urbain, pour le coup.
C'était ma question suivante, donc c'est parfait, sans transition. Donc voilà, c'était l'idée à travers ce cycle d'inviter plusieurs artistes dits urbains à proposer des interventions dans différents lieux patrimoniaux du CMN. J'avais noté l'artiste Madame, C215, et notamment aussi le duo Lek et Sobat, qui ont pu faire plusieurs interventions à La Rochelle. Donc finalement, la boucle était un peu bouclée, c'est-à-dire qu'on, par exemple, Lek et Sobat, qui viennent donc du graffiti, hein, qui posaient à la base des lettres leur nom ou d'autres lettres dans l'espace public, tout d'un coup se réapproprient un lieu où il y a une histoire antérieure, il y a un peu un palimpseste de graffiti depuis longtemps, et ces images-là, elles ont pu nourrir leur imaginaire, et puis eux, ils proposent une nouvelle installation contemporaine dans ce lieu. Et donc j'ai mis à l'écran une installation qu'ils avaient faite, par exemple, à La Rochelle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de leurs interventions dans ce site ?
Alors, juste en deux mots pour les autres, parce qu'il y avait cette espèce de trois personnes. C215, on a travaillé sur le Panthéon en mettant des portraits en dehors des gens qui sont enterrés d'habitude au Panthéon et en mettant des graffitis à l'intérieur et en faisant des visites autour des graffitis du peuple, entre guillemets. Donc il y avait vraiment cette volonté d'inversion. Et je dis juste en 15 secondes, je vous invite à y réfléchir. Victor Hugo, par exemple, qu'on a mis à l'extérieur, est un des plus grands graffiteurs, parce que moi, c'est le mot que j'emploie, que la Terre ait jamais porté. Chacun de ses livres, chacun, je peux faire un quiz à la fin si vous voulez, comporte une scène dédiée au graffiti, le summum étant Notre-Dame, dont l'histoire même part d'un graffiti à Nanke qu'il a lu à l'entrée du graffiti. Donc, même quand vous regardez dans la culture classique, il y a du graffiti partout. Ça, c'était pour le Panthéon. Madame, elle est partie au château d'If et elle est restée sur l'île, avec ce côté enfermement, j'allais dire, naturel, d'être cloisonnée quelque part. Ça, c'est des artistes qu'on a interpellés qui avaient une pratique autre. Lek et Sobat, ça a été un cran plus loin, parce que Lek et Sobat, pour moi, c'est un duo particulier sur la scène du street art, parce que c'est les premiers à être allés à la Villa Médicis. Des graffeurs à la Villa Médicis. Choc des cultures. C'est-à-dire que c'est la première fois que, dans la catégorie artiste, on prend des graffeurs. Ils ont fait un travail extraordinaire là-bas. Et moi, la première fois que je les ai rencontrés, c'est là que j'ai su qu'on allait se comprendre, on a parlé d'une autre chercheuse qui s'appelle Charlotte Guichard, qui a fait un travail sur les graffitis du Vatican et qui interroge la notion de patrimoine. Et eux connaissaient son travail et avaient vu son travail sur place à Rome. Si vous visitez les salles du Vatican, en dessous de certaines œuvres de Raphaël, entre autres, vous avez des cheminées en marbre sur lesquelles il y a des graffitis avec des noms gravés dedans. Et vous pouvez lire Poussin. Et c'est Poussin, celui que vous connaissez. C'est Nicolas Poussin qui a été mettre son nom. Parce qu'à l'époque, le patrimoine n'avait pas la même définition. On ne mettait pas de mise à distance. On pouvait écrire dans ce marbre et laisser sa trace. Et donc, c'était plutôt un hommage, un dialogue, une façon de s'inscrire dans la tradition et dans l'histoire. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait là. Et c'est pour ça que je pense la connexion s'est faite surtout avec eux. Lek et Sobat, quand ils arrivent quelque part, déjà, ils parlent avec les gens, en fait, tout simplement. Et donc, ils avaient cet espace-là, mais en fait, ils l'ont dépassé. Quand vous mettez des artistes, je pense que tu l'as vécu 15 fois, c'est-à-dire, voilà, ils ont l'habitude de travailler dans un contexte, et puis ils viennent d'une salle de graffiti d'un peu vandale. Vous leur dites, donc on est d'accord, vous travaillez ici. Ils vous disent oui, vous revenez deux semaines après, vous dites, alors en fait, il y a un drapeau là sur le toit de la tour, on n'a jamais parlé de ça, mais ok, très bien. Donc ils ont envahi le toit, et puis ils ont fait un petit leporello.
On le voit là, le toit.
Voilà. Et puis dans ce leporello, il y a un petit endroit, d'ailleurs c'est la signature qu'ils ont mis au fond, il y a une pierre avec des lettres gravées. Et quand j'ai vu cette pierre, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette pierre gravée ? Je ne l'ai jamais vue, c'est pas un graffiti de la tour. Donc ils ont été mettre des initiales sur une pierre du bâtiment. Alors, je vous rassure, et j'ai rassuré Philippe Bellaval, c'est pas une partie classée du monument, mais ils ont quand même pas pu s'empêcher de faire un graffiti, en plus de l'œuvre qu'on leur avait commandée. Et puis, ils ont discuté avec les gens de la ville, parce que du coup, ils sont restés à La Rochelle, ils ont découvert les anciennes traces du mur, etc. Ils se sont retrouvés à discuter avec le maire, et ils ont fait une installation, c'est pas prévu, voilà, une installation, qui pour moi est très intéressante, parce que... là, ils sont montés chez quelqu'un pour prendre la photo. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu un débat, une installation d'œuvre. À ce moment-là, ils réfléchissaient sur les lignes entrecroisements. Alors, on n'a pas mis tout le travail de Lake Sowat, mais je vous encourage à aller voir. Ils ont chacun leur pratique et une pratique ensemble qui est vraiment aussi autour de la calligraphie, des lettres, du retravail, des lignes et de ce sens-là. Donc, il y a vraiment un écho. Et là, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est une réécriture de la ville. Et quelque part, pour moi, c'était un miroir. Je leur ai jamais dit, tiens, d'ailleurs. Mais j'ai adoré ce qu'ils ont fait parce que c'était un miroir de ce que vous avez raconté à l'intérieur des tours, ce que vous lisez en regardant les graffitis, c'est la vie des prisonniers qui ont été enfermés. Mais vraiment la vie. Hein. C'est-à-dire que il y a des graffitis de prisonniers, enfin, d'anglais. Donc, on pensait que c'était l'époque où ils avaient été prisonniers dans les guerres avec l'Angleterre. En fait, pas du tout, parce que les dates correspondent pas. Et en cherchant dans les mémoires de la ville, c'est parce qu'ils avaient juste foutu le souk dans un bar. Hein. Donc, ils ont été enfermés dans les tours pendant 24 heures. Donc, c'est vraiment la vie au quotidien. Et ça, pour moi, c'est les lignes modernes qui rappellent en fait un graffiti contextuel, une base d'artiste, mais qui répond à des graffitis plus historiques.
Et donc, je reviens sur la première photographie. Donc, en plus de cette invasion de la ville, il y a eu aussi des installations qui ont pu être visitées dans les monuments, dans le monument de La Rochelle.
Exactement. Donc ça, c'était au sous-sol des tours, et c'est une création qu'ils ont fait sur place. Mais vous retrouvez ce jeu entre les lignes et l'espace et une réinvestissement. Et donc ça, c'était un hommage aussi à ce que le bâtiment avait été, à cette mémoire qu'il avait pu avoir. Dans les tours, il y a beaucoup de jeux de niveau. Il y a des ponts. Si certains d'entre vous connaissent La Rochelle, il y a trois tours en fait à La Rochelle. Et à un moment, deux d'entre elles étaient reliées par un pont qui n'existe plus aujourd'hui. Eux, ils ont retrouvé les vieilles cartes postales, ils ont retrouvé les vieux documents et ils ont travaillé autour de ça. Et donc, en fait, c'est des artistes, pour moi, d'art, je ne sais pas comment dire, urbain et patrimonial, les deux à la fois, parce qu'ils ont ramené l'histoire de la ville à l'intérieur du monument en le respectant, parce que vous voyez, il n'y a pas d'emprise autour l'œuvre qu'ils ont faite, la structure, elle était autoportante. Donc, voilà. Et avec un travail aussi sur les couleurs et les jeux de lumière qui étaient très forts dans les tours.
Je trouve que c'est un exemple vraiment parlant en fait, d'artistes qui se posent des bonnes questions aussi dans un lieu qui ont conscience du contexte dans lequel ils s'invitent et réussissent à avoir cette intelligence à la fois de faire des propositions in situ dans un lieu fermé et puis aussi donc, de s'inviter ailleurs et d'aller aussi secrètement de manière voilà, plus insidieuse, en fait, titiller la ville et questionner ses aspérités. Et donc, ce que vous montrez tout à l'heure, Susanna, c'était un petit livret de cartes postales qui a été édité, en fait, dans le cadre de cette résidence.
Alors, qui n'était pas prévu du tout au départ. C'est eux qui l'ont fait, hein, voilà. Moi, je l'ai vu un jour, et voilà, c'est exactement ça. Alors, je ne pouvais pas montrer la... pas trop le faire circuler, c'est vraiment quelque chose de très rare. Ils ont pris différentes photos à différents endroits. Si, quand même, juste le drapeau dont je vous parlais... C'était juste ça aussi dans la partie contexte, c'est-à-dire qu'ils ont recréé, vous ne voyez pas tous, je pense, mais ils ont, sur le mât qui est en haut de la tour de La Rochelle, mis leur drapeau pirate un peu quelque part, le lien. Mais c'est aussi un écho à un hommage parce que géographiquement, on est toujours dans un contexte urbain. La Rochelle a aussi une histoire de street art. Quand vous avez la mer dans le dos et que vous êtes sur une tour de La Rochelle, sur la droite, il y a un espace qui est souvent pris avec des grands murs d'art urbain. Donc, ils ont aussi créé ce dialogue-là et créé ces ponts de manière métaphorique entre la tradition, leur activité et celle des autres artistes de rue locaux, entre guillemets.
Et donc, alors on a eu cet exemple-là, il y en a eu d'autres. Moi, ma question, c'était, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que finalement, les publics sont venus redécouvrir ou découvrir ces monuments à travers ce cycle graffiti?
Alors, complètement, et c'était un public différent. C'était un peu le pari aussi de se dire, on va raconter des choses différemment. Alors, les monuments, c'est vraiment un univers... je pense qu'il amène une mixité de publics qui viennent, qui reviennent avec un ancrage local, etc. Et il y a une chose qu'on avait tentée et qui a bien fonctionné pour moi, c'était, on a fait un des projets transmédia. C'est quelque chose qu'on voulait faire, donc là, avec mon autre casquette numérique que je voulais tester, donc j'avais une matière idéale pour faire ça. On a voulu aussi créer des renvois, parce que quelque part, je vous montre une focale sur un site, mais l'histoire, elle se racontait entre les différents endroits. Chaque lieu a fait aussi participer et a créé un accueil. Donc, dans les 9 qui faisaient partie de la saison, donc il y avait déjà, tu as montré l'affiche tout à l'heure, il y avait 9 affiches, mais qui avaient le même graphisme. Et on a créé un jeu transmédia, c'est-à-dire c'était un jeu qui était en ligne. Le scénario n'était pas extraordinaire, hein, c'était comme souvent la lutte du bien et du mal, mais à travers des nymphes qui avaient été enfermées, et les graffitis étaient un moyen de communiquer avec elles. Bref, si vous enquêtiez dans les 9 endroits, vous arriviez à trouver un message codé, à gagner des choses. On a eu plein de partenaires médias. On a réussi à avoir Télérama, on a réussi à avoir Move, on a réussi à avoir la Philharmonie de Paris. Et c'était important pour nous parce que ça montrait aussi toute la richesse du graffiti dans d'autres univers. C'est-à-dire que l'expo de Vincennes et les partenariats qu'on a eus sur ce média-là, le fait d'avoir travaillé sur du numérique, a fait qu'on a pu parler, bah, par exemple, du graffiti dans la publicité. Si vous voyez la publicité de la veuve Clicquot, elle est écrite sur le mur, elle fait un graffiti, la veuve Clicquot, dans le cinéma, plein de scènes, le Joker de Batman, voilà, les séries House of Cards, je peux en parler pendant, voilà, il y a des milliers de scènes et d'images là-dessus. Donc on a réussi à décaler aussi le propos et à dire, en fait, dans la culture contemporaine, dans l'œil que vous avez aujourd'hui, on vous met des graffitis, en fait, plus ou moins normés sous les yeux, très très fréquemment, qui prennent leurs racines à la fois dans ce que vous pouvez trouver dans les monuments et dans la pratique de ces artistes qui ne sont pas si loin de ce que vous croyez, en fait. Et ça a vraiment créé des ponts. Un des sites, c'est Anserune, qui est un site plutôt archéologique. Donc, le conservateur d'Anserune, c'est un archéologue. Hein, voilà, c'est pas, les graffitis, c'est pas sa passion. Mais il a travaillé sur les sigillés, donc c'est des vieux vases où il y a des marques en dessous, il y a des marques officielles, mais il y a aussi les marques parasites, entre guillemets, ou d'autres messages qu'il a pu retrouver. C'était l'occasion pour lui de valoriser le travail de chercheurs sur ce sujet-là. Donc ça a vraiment permis de tisser. Je dis souvent, le graffiti, c'est un lien, c'est en fait ce qui nous lie tous, en vrai, c'est un lien d'humanité, et c'est une focale sur telle ou telle période, et ça vous invite à mener l'enquête. C'est ce qu'on a fait dans le jeu transmédia, et c'est ce que les visiteurs ont fait en allant d'un site à l'autre sur cette saison-là.
Et en parallèle, pour le public encore plus curieux, donc il y a eu l'édition de ce catalogue que vous a montré aussi tout à l'heure Susanna, que vous pouvez trouver, je crois, à la boutique du Grand Palais Immersif, et qui apporte aussi des contributions pour expliquer aussi et diffuser de la transmission de l'information sur l'histoire de l'art urbain avec des artistes et puis l'histoire aussi du graffiti. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu quelques mots?
Tout à fait. Alors, on a essayé de croiser tout. Alors, c'est vrai que c'est pas vraiment un catalogue parce que c'est pas le reflet de l'exposition qui était à Vincennes ni des 9 autres expositions. On l'a plutôt pensé comme un point d'étape des recherches en cours. C'est la plus grosse partie du livre. Et puis à l'arrière, un petit guide. Si vous voulez voir des graffitis, voilà un nombre d'endroits où vous pouvez en voir, y compris à Londres, y compris à l'étranger. Et en fait, moi, j'ai fait les intros globalement, mais la matière, elle vient pas essentiellement de moi. C'est tous les chercheurs. Je vous ai dit, il y a une sédimentation de recherche et de gens qui sont experts sur différents sujets. Par exemple, vous avez plein de graffitis qui représentent des bateaux. Moi, j'y connais rien en bateau. En revanche, vous avez un spécialiste qui est capable de vous dire ce bateau-là, c'est tel modèle de bateau, ça naviguait de 1540 à 1572, donc le graffiti date de cette période-là. Et c'est hyper précis, hyper pointu. Ce qui était intéressant dans les études qu'on a faites, c'est de montrer un peu justement les différents métiers, les différents regards qui travaillent là-dessus, et de montrer le caractère contemporain de certaines de ces pratiques-là. Je le dis souvent, le livre il doit faire 200 pages. Il y a une page qui m'a pris autant de temps que toutes les autres. C'est des images, des graffitis, des révoltes du printemps arabe. Parce qu'à l'époque, les gens qui avaient fait ces photos et qui avaient fait ces graffitis étaient en prison ou cachés. Donc on a eu du mal à récupérer les images. Et pour nous, c'était important. Et ça montre bien cette filiation. Quand vous regardez l'Égypte, par exemple, ben, vous avez les graffitis des scribes dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez les graffitis des premiers visiteurs qui sont venus dans les pyramides, vous avez les graffitis des soldats napoléoniens, vous voyez de quoi je parle, qui ont mis leur nom partout, qui ont mis les dates comme une appropriation, encore une fois, contextuelle et historique. Et puis vous avez ces graffitis contemporains de militants, je ne sais pas comment les qualifier, pour certains d'artistes, en tout cas de gens du peuple qui s'étaient soulevés à ce moment-là et qui exprimaient et qui avaient repris des codes graphiques et visuels appartenant à leur histoire et qui racontaient tout ça. Et on a voulu adjoindre, donc je crois que c'est le dernier article peut-être de mémoire dans le livre, montrer les performances, les travaux, montrer les échos dans les formes. Tu vois, la page à laquelle tu ouvres, on voit les différentes... la main, qui est un symbole qu'on voit dans différents endroits. Il y a un article sur le cinéma. Et il y a un article aussi sur cette pratique à l'ère numérique. Alors, bon, maintenant, il y a l'expo que je vous invite à aller voir qui couvre encore plus le sujet. Mais à l'époque, il n'y avait pas forcément grand-chose là-dessus. Mais quand vous y réfléchissez, même quand vous allez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous avez un mur sur lequel vous taguez des gens. Même le vocabulaire, en fait, est de cet univers-là. Et l'ère numérique a changé un peu les choses sans les changer fondamentalement. Et c'est ça qui était intéressant. Alors, il y avait déjà des premiers exemples sur des graffitis au drone ou des travails au tag. C'était pas forcément encore très documenté à l'époque. Et ça faisait partie d'une réflexion ou des travaux d'artistes qui rectifient du graffiti en le remettant plus droit, qui, pour moi, sont des pratiques artistiques, pour le coup, qui amènent ailleurs, qui amènent dans cette réflexion sur la ville, sur l'art, mais qui rebouclent toujours avec cette volonté de prendre de l'espace et de laisser sa marque. Ça rebouclait aussi avec les premiers questionnements que tu as listés, cette question du rapport au temps, de l'éphémère, du temps qu'on passe. Moi, j'entends souvent des gens des musées ou des monuments dire bah oui, les taggeurs, en fait, ils font ça en 15 secondes et c'est un acte de la rapidité. C'est complètement faux. Ils passent des années et des années à travailler leur signature dans ce qu'on appelle des black books, comme les gens qui ont fait ça enfermés dans les monuments historiques, comme un artiste qui va peaufiner son style, son approche, etc. Et c'est ça qu'on trouvait intéressant, se dire, à l'heure numérique, on voit émerger des nouveaux taggeurs différents. Et à cette époque-là, on avait travaillé d'ailleurs avec des étudiants qui avaient fait un projet génial, qui était un filtre que vous pouviez rajouter sur votre moteur de recherche Google, et vous pouviez taguer les sites Internet. Et seuls ceux qui avaient ce filtre-là voyaient la version taguée des sites. Et je trouvais ça génial parce que pour moi, c'est exactement la même chose. Tout comme les graffitis anciens, en fait, ils vous enlèvent un filtre sur une mémoire que vous pensez connaître. Vous pensez que vous connaissez l'histoire de tel pays, de telle ville à telle époque. En fait, non. Vous connaissez la mémoire des dominants, vous ne connaissez pas toute la vision. Mais là, c'était pareil. C'est ben, y a l'info qu'on vous donne sur le site et puis il y a un autre filtre qui peut apparaître de manière différente, soit sociale, soit politique, soit artistique, et qui vous amène un autre regard.
Voilà, je vous encourage à lire ce livre qui est vraiment passionnant, avec beaucoup de photographies et de textes poussés, mais qui permettent vraiment bien de comprendre tous ces enjeux-là. Leur fil, hein, donc on va être amené à bientôt conclure et puis surtout à vous laisser un tout petit temps quand même pour que vous ayez des questions à poser. En guise de conclusion, je voulais quand même rappeler un peu le calendrier qui s'annonce, puisque Susanna en a parlé. Donc Egotarium, cette exposition avec Aletheia, j'ai trouvé ça sur le site, hein, j'ai pas trouvé d'autres visuels pour l'instant, mais qui va ouvrir donc en avril au musée.
Inauguration le 5 avril.
Voilà, vous avez la date. Et puis aussi, vous dire que nous, en tant que fédération, on est aussi là à proposer des formations professionnelles. Donc si ça intéresse certaines et certains, on intervient au MUCEM en juillet 2024 sur les enjeux de l'exposition de l'art urbain comme art dit hors norme, avec toutes les difficultés, qu'on a pu évoquer à l'instant. Et puis aussi, j'ai voulu mettre le calendrier... de ce lieu en fait qui est proposé avec le Grand Palais Immersif. Vous avez d'autres temps de rencontre avec notamment l'artiste Kashink le 6 mars, donc ça arrive bientôt. Et puis d'autres tables rondes aussi sur d'autres enjeux liés à l'art urbain, à la musique et aussi à la mode. Voilà, on est censé terminer dans une dizaine de minutes, donc ça nous laisse quand même un temps d'échange avec la salle. Si vous avez à la fois des remarques, mais aussi des questions pour nos deux intervenantes, c'est le moment. Et merci de votre attention.
Bonsoir, merci. Merci pour votre intervention, c'était assez éclairant. Une question notamment pour Susanna. On a beaucoup parlé ce soir des street artists ou des néo-muralistes qui aussi des fois ont des pratiques dans la rue en vandale, notamment dans le processus d'acquisition. Comment est-ce que vous sélectionnez d'une part, et surtout savoir quand il y a des graphes purs, on va dire, dans la rue, comment est-ce qu'on sélectionne ces œuvres-là dans la rue? Quel dialogue on a avec les artistes?
Je ne vais pas aller découper des morceaux de la rue pour les mettre dans les collections du musée. En fait, quand je dis ça, c'est que justement, Laure vient de le dire, le contexte est roi dans le graffiti, qu'il soit historique ou contemporain. Donc sortir une œuvre de son contexte, c'est lui faire dire autre chose. C'est pas le choix de Nancy. Je trouve que c'est super compliqué.
Ouais, c'est une question sans fin. Moi, je rajoute juste, c'est marrant, on vient de finir la production de l'expo Invader Space Station, que je vous invite à aller voir, mais si vous voulez y aller, prenez vos places très vite, parce que c'est quasiment complet. On essaye de rajouter, mais on n'y arrive pas. Et en fait, lui, il y a tout un étage, moi j'ai entendu des visiteurs qui ne s'intéressaient pas forcément à ce qu'il faisait, mais il y a des photos en fait, de différents endroits de ville qui en fait, racontent aussi la ville à un instant donné et qui changent le regard. Et je trouve que ça, la notion de contexte, elle est très importante. Après, du coup, ça questionne et interroge sur qu'est-ce qu'on doit montrer et qu'est-ce qu'on peut montrer. Finalement, quand on le sort de la rue, on dénature un peu. Enfin, ça, c'est débat sans fin.
L'une des manières, c'est de faire appel, comme tu le dis, à la photo et de passer commande à des artistes photographes qui vont rentrer en communication avec ça. Parce que la dépose de l'art mural... Ça existe, et c'est vraiment quelque chose qui s'est fait. Le Musée national d'art de Catalogne à Barcelone est peuplé de magnifiques fresques romanes déposées des églises des Pyrénées. Et les cloisters à New York aussi. Donc ça a sauvé les fresques des Pyrénées de la destruction des différentes situations politiques et de la guerre civile en Espagne. Mais quel est... En temps de paix, de quel droit le musée, de quel droit le conservateur va aller arracher quelque chose ? Je trouve que ça empile les questions et les problématiques et que, à ma petite échelle, pour l'instant, on n'y est pas encore. On va y aller plus mollo et qu'on peut avoir quand même un petit peu de graffiti dans la collection de Nancy grâce à la sérigraphie et à un portfolio qui ressemble très, très bien à une œuvre calligraphique.
En tout cas, merci beaucoup pour cette conférence, c'était très intéressant. Alors moi, je me demandais comment on patrimonialise l'art urbain face aux politiques d'effacement, et notamment quand c'est de l'art urbain qui est illégal, et je pensais notamment à l'art militant, au collage sauvage. Et voilà.
C'est moi qui patrimonialise à mort. Justement, l'une des grandes affaires, c'est que patrimonialiser n'est pas un but en soi. En fait, on est confronté là à une réalité de nos villes et de l'art tel qu'il se fait. Le musée essaye comme il peut de faire partie de ce mouvement. Après, tout n'est pas gardable, tout ne peut être gardé, et encore heureux, parce que vous imaginez, on croulerait sous le drame de la mémoire, on ne vivrait plus. C'est la contradiction fondamentale de mon métier. Hein. Je suis là pour faire traverser le temps à des choses, et en même temps, ça me démange de jeter. Parce que quand on est confronté à l'inflation patrimoniale monstrueuse dans laquelle on est, et dans laquelle je suis une actrice comme une autre, et on se dit, quelle trace garder de tout ça ? La question de l'effacement, on avait eu l'occasion d'en parler avec Julie Valin, justement, qui avait beaucoup discuté de ça, qui est une chercheuse qui s'est intéressée aux politiques d'effacement et à la mutation de ces politiques d'effacement, notamment à la ville de Paris, et comment les murs légaux sont venus prendre la place des lieux vandales, et comment cette composition, l'espace public est un espace encore plus politisé que l'espace privé, même si le privé est politique. Et donc les enjeux de tout ce qui se joue en art, en politique publique, en aménagement du territoire, en visibilité, vous les voyez là. Est-ce que garder les collages féministes, c'est toute une question qui se pose aujourd'hui, les collageuses qui se demandent et tout ça, la vitesse à laquelle ça disparaît. Mais il y a une contre-offensive photographique justement qui passe derrière. Donc la question aussi du temps long qui se pose... Sur le discours militant, c'est parfois très compliqué. La question s'est beaucoup posée en Argentine lors du Corralito, il y a déjà quasiment 20 ans, maintenant que j'y pense, où les militants et les militantes eux-mêmes ont voulu documenter tout ça par la photographie, parce qu'ils savaient que ça allait disparaître. Aujourd'hui, on se passe ces images comme un mot de code, en quelque sorte. Ça fait partie aussi du discours militant, je pense, que de disparaître et de survivre en silence. Je ne sais pas comment le décrire.
Moi, sur la partie militante, juste pour compléter, c'est pas moi je ne décide pas de ce qu'on patrimonialise ou pas. Juste, je fais le constat dans deux ou trois expos récentes qui ont eu lieu sur d'autres sujets, par exemple sur les années SIDA. En fait, les collections, elles viennent des associations militantes qui ont à un moment gardé cette mémoire, ce qui permet aujourd'hui de la montrer. C'est ce que je disais tout à l'heure. La mémoire, c'est très important de la construire. Là. Moi, j'étais cette année au CIL des hautes études du ministère de la Culture. On a fait un rapport sur la notion de patrimoine et friction des mémoires. C'est un des points majeurs qu'on a identifié. C'est les trous de conservation aujourd'hui sont les trous mémoriels de demain. Donc, en fait, la difficulté, c'est qu'on essaie de rattraper une mémoire passée et en même temps de construire intelligemment. Je ne sais pas si elle peut être intelligente, mais de manière peut-être objective, la mémoire de demain. Comment on peut choisir ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Moi, je trouve que la photo est vraiment essentielle. Et moi, j'ai travaillé sur deux corpus récemment, qui sont celui des Gilets jaunes et celui de Black Lives Matter, parce que j'étais en résidence à la Villa Albertine, donc aux États-Unis l'année dernière. C'est extrêmement difficile, en fait, de savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, ce qu'on raconte, ce qu'on ne raconte pas. La photo est essentielle. La matière aussi est essentielle. Des objets, des choses comme ça qui sont conservées. Ça rejoint ce que tu disais aussi sur Arkane. Enfin, moi, je me rappelle cette discussion aussi sur... Il y a certains... faut pas oublier que le graffiti, c'est une pratique illégale. Les colleuses, c'est une pratique illégale, en fait. Enfin, bon, on peut débattre, mais en gros, c'est pas simple, en fait, comme matière à garder. Et moi, un graffeur, voilà, ses affaires, elles ont été jetées quand il est décédé, parce que c'était des preuves déjà contre lui, et puis peut-être que son entourage ne voyait pas la valeur des choses. Donc c'est aussi difficile parce qu'on est dans un militantisme et dans une opposition d'une manière ou d'une autre. Les Gilets jaunes, par exemple, moi je considère que c'est des graffitis qu'il y avait sur les Gilets jaunes. Ils ont eux-mêmes documenté ça avec un livre notamment où ils ont justement recensé toutes les photos. Moi je pense que ça, c'est important. Les publications, les campagnes photos sont essentielles. Et moi, quand je suis partie du Centre des Monuments Nationaux, le truc essentiel pour moi, c'était il y a 3 cartons qui sont à la documentation du Centre des Monuments Nationaux, qui, encore une fois, attendent que quelqu'un fasse le tome 2 de ce livre, je sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais ça existe. C'est posé là, dans des endroits qui sont des institutions et qui gardent cette mémoire-là d'une manière ou d'une autre. Voilà.
Avis aux amatrices ou amateurs pour le tome 2. On peut prendre encore une autre question. Enfin, je vois Elisabeth, qui est maîtresse du temps pour le lieu. Enfin, il y avait une question derrière et puis devant.
J'ai 2 questions rapides. J'ai remarqué que dans le métro, vous avez les affiches publicitaires et certaines personnes vont faire un dessin dessus ou détourner le message publicitaire pour en faire autre chose. Est-ce que c'est considéré comme du street art ? Quand c'est artistique.
Moi, je le considère comme du graffiti. Je ne sais pas si
comme
c'est
du graffiti.
Mais en tout cas, c'est du graffiti pour moi. Et la définition que Cécile a donnée tout à l'heure.
Moi, je le considère comme du détournement, sans forcément mettre le terme de graffiti dessus. Donc, une pratique libre dans l'espace public qui se joue de l'espace public et qui peut faire partie de l'art urbain, mais avec prudence, parce que je n'ai pas vu le résultat.
Sinon, dans Paris, vous avez une sorte de musée de street art à ciel ouvert. C'est le spot 13, pas loin de l'avenue de France. Et les street artistes se plaignent, donc ils réalisent un chef-d'œuvre, c'est quasiment des chefs-d'œuvre sur un mur. Et il y a des personnes qui passent après et qui vont dévaster l'œuvre du street artiste. Et eux-mêmes se considèrent comme des artistes. Je ne sais pas s'ils portent un nom. Donc ils passent derrière les street artistes pour saloper leur chef-d'œuvre et ils s'intronisent. Eux-mêmes street artistes.
J'ai juste un petit exemple nancéen. On a invité l'année dernière El Tono à venir. On lui a commandé une pièce. Et donc, il a fait une très belle pièce sur un pont autoroutier, hyper coloré, tout ça. Et la pièce a super bien tenu, alors que c'est un lieu dans lequel les gens viennent, les mômes qui sortent du lycée d'à côté, viennent écrire des trucs très maladroits au Posca, tout ça. Des bébés graffeurs, peut-être un jour. Et donc, l'œuvre est restée très clean pendant très longtemps. Jusqu'à ce que, il y a quelques mois, il y a un môme. Je fais comme ça avec la main gauche parce que c'était très main gauche, quoi. C'était vraiment le gamin qui vient mettre son nom et qui, je fais du vandalisme sur une œuvre. Le bébé, quoi. Et donc, je suis là, j'en parle à mon équipe et je dis, ah, putain, il s'est fait taguer, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai rien eu à faire. Les plus vieux graffeurs sont allés voir le môme, lui dit « Mais t'es con ou quoi ? Tu toilles pas ça ? T'es stupide ?» Et donc du coup, le môme, il est allé faire son truc ailleurs, parce qu'on lui a dit « Mais c'est con ton truc, va mettre ton blaze ailleurs, c'est bête !» Ça m'a fait marrer, et j'ai rien eu à faire.
Après, peut-être pour compléter, c'est un peu le jeu de la rue aussi. Hein. C'est vrai qu'on est dans la rue, donc il y a des codes. Parfois, il y a des graffitis ou des personnes qui sont respectées du milieu, qui ne sont pas recouverts. Ça, c'est aussi le jeu de la rue. Et quand on n'y est pas, ça peut nous paraître assez abstrait. Mais c'est bien pour ça qu'on parle aussi d'une culture urbaine. Et puis ensuite, on n'est jamais à l'abri quand on fait dans l'espace public de se faire recouvrir ou de se faire toyer, comme on dit. Et c'est toujours extrêmement contrariant. C'est pour ça qu'il y en a qui peignent de plus en plus haut pour ne pas se faire recouvrir. Mais finalement, là, moi, c'est à titre personnel, hein, je ne le dis pas au nom de la fédération, mais ça me paraît être le jeu de la rue.
Je rajoute un exemple qui, moi, me paraît aussi marquant. Si vous prenez le tunnel des Tuileries, il y a eu une installation pendant un temps avec quelque chose qui permettait à chacun de s'exprimer, qui était organisé, etc. Si vous y passez aujourd'hui, c'est tout recouvert, c'est la loi. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que justement, une des œuvres, je le prends tous les jours. Donc, je l'ai vu au fur et à mesure se faire recouvrir. Une des œuvres qui restait le plus longtemps, c'est celle de Lakesowat, en l'occurrence, qui était un hommage à Jacques Villéglé qui venait de décéder. Donc, il y avait son nom écrit sur le mur. Celle qui restait le plus longtemps. Ça rejoint exactement ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi des codes de qu'est-ce qu'on toille, qu'est-ce qu'on toille pas, qu'est-ce qu'on amplifie, qu'est-ce qu'on laisse. Et c'est aussi à chacun de faire sa place et de prendre son univers. Et juste vous dire aussi, parce que c'est vrai que c'est important en termes de patronisation, j'ai oublié de parler de ça. Il y a quand même eu plein de lieux éphémères autour du graffiti. Là, il y a un projet qui a été acté, qui va ouvrir, si tout va bien, en 2026-27, je pense maintenant, qui est dans des anciens locaux de la SNCF qui s'appelle les Cathédrales du Rail à Saint-Denis et qui va être le premier musée français du street art. Il y en a un à Amsterdam, il y en a un à New York, qui est plutôt un musée du hip-hop d'ailleurs, mais voilà. Et voilà, donc on va ouvrir ça. C'est un format particulier. Le projet tel qu'il est pensé, il y a différents endroits. Il y a plein d'expositions. Enfin, ça fait des années qu'on a des grandes expositions. Celle qui est juste à côté vraiment mérite d'être vue parce qu'elle raconte aussi autre chose. Et là, on passe à un autre niveau, j'allais dire. C'est-à-dire là, maintenant, c'est plus des lieux éphémères, c'est plus des lieux dans la rue. Il y a un espace qui est un musée permanent, mais qui évidemment va vivre avec une logique street art. Il y aura forcément des murs qui seront forcément peints, repeints, réécrits, réemparés. Et ça fait partie de l'ADN, quelque part, de cet art urbain, je pense.
Donc il y avait une main au fond, je ne sais pas si on la voit encore. Et sinon, il y a Dominique Harris, qui est notre membre d'honneur, qui veut peut-être prendre la parole et qui pourra prendre la parole pour clôturer cette table ronde.
Qui n'a absolument pas l'intention de clôturer, mais qui a l'intention, une nouvelle fois, de faire état de mon étonnement, de la vitalité, de l'intérêt que la direction du patrimoine du ministère de la Culture a pu porter, porte et portera aux écritures urbaines et aux graffitis. Pour ceux qui ne sont pas au ministère de la Culture, la direction du patrimoine, ce sont les musées, et le gardien du temple, le CMN, donc, qui gère les monuments appartenant à l'État, et qui ont donc toujours, je le répète, manifesté et commencé, disais-tu, Susanna, à faire des fonds d'acquisition des œuvres d'art dans vos musées. J'aimerais tellement, moi qui ai travaillé si longtemps à la Direction Générale de la Création Artistique, donc la direction qui devrait s'occuper de l'art urbain, puisque avant d'être un patrimoine, il est une expression artistique contemporaine, il est une expression artistique de tous les jours, qui, avec toutes les préoccupations que peuvent avoir les ministres, les ministresses successives, d'élargir à l'art contemporain les publics les plus larges et les moins dédiés à l'art contemporain. Et que c'est une question que je pose à Susanna, mais que je pose en général, qui était, je t'entendais tout à l'heure parler des commissions d'achat pour les musées, mais les grandes commissions d'achat pour l'art contemporain, que sont celles du CNAP, que sont celles des fonds régionaux d'art contemporain et autres lieux où on acquiert l'art contemporain, il n'y a pratiquement, et là l'actualisation de l'étude sera très facile à faire, puisqu'il n'y a pratiquement aucune acquisition. Alors après se pose le problème de qu'est-ce qu'une acquisition, mais c'est un autre sujet. Mais il n'y a pratiquement aucune acquisition dans les lieux dédiés à l'art contemporain sous tutelle publique, sous tutelle du ministère de la Culture et des collectivités territoriales. avec une des préconisations qui est, voilà, je conclurai comme ça, avec l'une des préconisations qui est celle qu'on porte avec la Fédération de l'art urbain depuis des années, c'est que les personnalités qualifiées que vous êtes, mesdames, messieurs, on exigeait que dans chacune des commissions d'acquisition de l'art contemporain, puisque l'art urbain c'est de l'art contemporain, il y ait dans toutes ces commissions d'acquisition, qui sont souvent des commissions qui se reproduisent entre elles, hein, c'est les mêmes, qui, etc. Donc il y a une certaine forme, une certaine platitude, formatage, merci, des acquisitions, qu'il fallait qu'une personne qui était spécialiste, qualifiée, puisqu'on parle de personnalité qualifiée dans l'art urbain, puisse être partie prenante de ces commissions aussi à côté de celles des musées. On est ravis que les musées le fassent, mais on serait tellement contents aussi que les lieux d'art contemporain le fassent. Voilà.
Merci Dominique. Donc on en fera le point plus tard. Ben merci à toutes et à tous d'être venus nombreuses et nombreux. Merci à Elisabeth d'avoir fait la modération, à la régie aussi d'avoir assuré quand même sur le son et l'image. Et puis on vous souhaite une bonne soirée.